France Info. Ils vont décrocher la Lune. Ces scientifiques qui relèvent les défis du 21e siècle.
C'est un phénomène assez insidieux si on n'y prête pas attention, ça ne saute pas forcément aux yeux, peut-être juste une impression. Et pourtant, la sixième extinction de masse des espèces est en cours. Si on ne fait rien, c'est près d'un million d'animaux et de plantes supplémentaires qui risquent de disparaître dans les prochaines décennies, comme l'ont dit les experts il n'y a pas très longtemps, au printemps. On a tous entendu ces chiffres qui ont donc été publiés par les experts de l'ONU. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'agir? Pourquoi est-ce qu'il faut contrer ce déclin? Comment freiner la perte de biodiversité? Sauver microbes, vers ou mésanges, serons-nous à la hauteur de ce défi du 21e siècle? Bonjour François Sarrazin.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'écologie à Sorbonne Université à Paris et président du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Des espèces qui disparaissent, François Sarrazin, c'est toute l'histoire de ce monde en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle alerte aujourd'hui?
L'alerte, en fait, elle est actuellement extrêmement forte quant à la prise de conscience de l'ampleur de ces déclins et du rythme de ces déclins. Comme on le dit souvent, l'extinction fait partie de l'évolution. Depuis l'origine du vivant, des organismes apparaissent, se créent, se modifient et pour une grande partie disparaissent. Simplement, quand on regarde aujourd'hui la façon dont on peut documenter et quantifier ces taux de déclin, à la fois en termes d'extinction, de perte d'espèces, mais aussi en termes de perte de leur abondance, de leur déclin de population à l'échelle mondiale, on se rend compte que nous sommes non pas dans ce rythme régulier d'extinction, mais dans ce qui relève des grandes crises d'extinction, donc cinq grandes crises d'extinction qui ont été documentées dans l'histoire paléontologique, donc avec des extinctions massives, et on est à ce rythme-là. On n'est pas encore à l'aboutissement de cette crise d'extinction, mais on en prend un chemin accéléré. Et là où cette quantification prend un sens particulier, c'est que tout ce dont on parle et dont on va parler dans les minutes qui suivent se discute à l'échelle maximum des siècles, voire des dernières décennies ou des 50 dernières années notamment, dans le cadre de ce qui nous intéresse. Et ceci correspond à une instantanéité quasi totale par rapport à cette histoire du vivant. Et donc quand on ramène ces taux, on considère qu'ils sont 10 à plusieurs centaines de fois supérieurs, ces taux d'extinction, mesurés sur le temps très court, à ce que devrait être ce rythme normal d'extinction hors de nos impacts sur l'environnement.
Le déclin, il est le même pour toutes les espèces, les mammifères, les insectes, les plantes, les bactéries?
Non, alors il y a un grand enjeu de quantification et de documentation de ce déclin, sachant qu'une grande partie de cette biodiversité n'est pas encore connue en elle-même, n'est pas décrite. Alors il ne s'agit pas d'attendre d'avoir tout décrit pour commencer à compter ce qu'on perd. Sur les groupes très bien documentés en termes de quantification de ces pertes de biodiversité sont, comme vous l'avez dit, les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, on commence à avoir une connaissance un peu importante. Et puis quelques groupes de plantes, par exemple les gymnospermes, on commence aussi à avoir une connaissance de plus en plus importante sur les coraux. Et sur ces groupes-là, on est à des taux d'espèces considérées comme menacées, suivant des critères quantitatifs définis à l'échelle mondiale, qui montrent en moyenne à peu près 25% d'espèces qui sont menacées à ce titre-là, donc qui sont susceptibles d'aller vers l'extinction dans les décennies ou petits siècles qui viennent. D'autres groupes sont encore très mal documentés, les insectes par exemple, qui sont ultra majoritaires dans la faune terrestre. Et les estimations restent encore sujettes à discussion, mais on pense qu'on a à peu près 10% de ces insectes qui seraient menacés, sachant qu'on a des évaluations locales extrêmement préoccupantes sur ces insectes. Par exemple, une étude récente en Allemagne qui montre un déclin en 25 ans de près de 80% de la biomasse d'insectes dans des espaces protégés, donc quelque chose qui est particulièrement alarmant. Donc voilà, on a des informations parfois partielles, mais sur les groupes très bien documentés, quasi exhaustivement, mammifères, oiseaux, eh bien là, on a des taux de déclin extrêmement forts. Et chez les amphibiens, on atteint 40% d'espèces menacées, par exemple.
Une espèce qui disparaît aujourd'hui, on ne sait pas la faire renaître.
Non. Alors, on a effectivement dans le champ scientifique des discussions.
C'est pas Jurassic Park.
Voilà. Alors, ce fantasme de Jurassic Park commence à être de plus en plus présent dans certains
si
laboratoires
faire,
et dans c'est plus compliqué que ça. Justement, on commence à voir apparaître cet argumentaire-là, qui est d'abord mobilisé par des collègues qui travaillent à l'échelle moléculaire et qui, se préoccupant de ce qui se passe à l'échelle du génome, se disent bah après tout, on peut bricoler tout ça assez efficacement. Ça relève déjà à cette échelle-là d'une part de fantasmes, parce que les choses sont beaucoup moins maîtrisées qu'elles sont annoncées, et quand bien même on arriverait à reconstruire quelques génomes de manière un peu artificielle, la question de la reconstitution de populations d'organismes et d'interaction de ces organismes dans des environnements avec lesquels ils ont coévolué, avec lesquels ils n'ont pas fonctionné, elle se pose. Donc de toute façon, ces questions de restaurer éventuellement dans le futur des espèces éteintes n'abordent pas du tout ces choses-là sous cet angle-là et restent de l'ordre du potentiel exploit technique qui n'a pas de sens en termes écologiques pour l'instant.
Un seul responsable à ce déclin ou à cette accélération du déclin, c'est l'homme ?
Alors, un seul, oui, si on considère que l'homme est entre guillemets, unique dans sa façon d'aborder les problèmes. Une diversité de facteurs, mais qui sont tous effectivement d'origine anthropique. Encore une fois, ce bruit de fond d'extinction d'origine naturelle pourrait concerner à peu près 1% des extinctions actuelles. On est ultra majoritairement dans des causes d'extinction d'origine anthropique, des facteurs directs de plus en plus documentés et des facteurs indirects.
Faute directe, c'est artificialisation. Alors, des terres, voilà, les pesticides.
Les grands facteurs directs, maintenant bien connus, qui sont très généraux sur l'ensemble des organismes, avec peut-être des nuances en fonction du fait qu'on soit sur des organismes terrestres ou marins ou aquatiques d'eau douce. La perte et la fragmentation des habitats, la première cause de perte de biodiversité terrestre et même marine, c'est une cause importante, c'est l'altération des habitats, nos impacts sur la mise en culture, l'utilisation, l'urbanisation, etc., la fragmentation de ces habitats par nos infrastructures. Deuxième cause qui est extrêmement importante, qui peut varier suivant les organismes, c'est la surexploitation. L'exploitation directe, le fait qu'on consomme ces organismes pour notre alimentation, pour nos vêtements, pour notre chauffage, etc. Et c'est particulièrement vrai dans le milieu marin d'ailleurs, ce problème-là. Et puis ensuite, les problèmes de pollution qui réapparaissent extrêmement fortement, y compris dans nos actualités. Hein, on entend tous parler de ces pollutions plastiques, mais quand on parle de pollution, il y a bien sûr ces pollutions plastiques, ces pollutions chimiques, les pesticides et autres qui sont eux faits pour polluer. Hein, on est là pour ces produits-là sont faits pour détruire de la biodiversité, donc on peut pas leur reprocher de faire leur boulot, mais à nous de savoir nous en passer. Mais aussi des pollutions lumineuses. Hein, nos émissions de lumière qui sont de plus en plus importantes et du fait notamment de nos gains technologiques avec les LED, etc., eh bien ça pose des tas de questions sur un grand nombre d'organismes qui ont besoin d'une nuit noire pour pouvoir bien fonctionner. Et puis des pollutions sonores aussi. Nos routes, nos avions, nos trains, nous qui faisons du kayak, de la randonnée, etc., par nos émissions sonores, nous perturbons un grand nombre d'organismes, et c'est aussi un sujet qui commence à monter dans la littérature scientifique. Et puis, sujet majeur et grandissant, absolument important et central, enfin, incontournable, les changements climatiques, qui effectivement posent des problèmes de plus en plus importants pour la biodiversité. Et puis, autre sujet aussi récurrent et qui reste extrêmement difficile à aborder, c'est question d'espèces dites invasives, c'est-à-dire des espèces que nous, humains, transportons, introduisons dans des espaces. On l'a longtemps fait de manière volontaire. Maintenant, a priori, on évite ce genre de choses, mais on le fait beaucoup
avec
de manière...
Avec
la multiplication des déplacements, des personnes, des biens, etc. Effectivement, ces espèces invasives ont des impacts majeurs, notamment en milieu insulaire, dans des milieux confinés, où les organismes natifs présents ont moins de possibilités d'absorber l'arrivée de ces espèces. Eh bien, c'est une cause d'extinction majeure sur certaines faunes, flores locales.
Facteurs indirects ?
Les facteurs indirects, alors là, on a la démographie humaine, les effets néfastes d'un certain nombre de dimensions de notre croissance économique et des développements technologiques qui, pour un grand nombre d'entre eux, ne tiennent pas compte du tout de ces enjeux de biodiversité. Des problèmes de gouvernance, des problèmes d'institutions, c'est-à-dire que quand bien même des mesures de gestion, de conservation, de protection, etc., sont votées, etc., encore faut-il que les États soient ou les communautés locales soient en capacité de les implémenter, de les mettre en œuvre. Donc ces enjeux de gouvernance sont importants. Et puis bien sûr des facteurs auxquels on aimerait bien échapper nous humains, que sont les conflits, les épidémies par exemple, qui ont aussi des effets sur cette biodiversité.
Alors, on a posé le constat, mais je le disais en introduction, finalement, pourquoi agir ? On pourrait se dire, ça change quoi ? Une espèce de ver de terre en moins, ça change quoi ? Une flore qui disparaît, 2-3 oiseaux en moins, ou même encore mieux, parce qu'on pourrait se dire, un virus ou une bactérie en moins, c'est quand même une maladie que je n'attrape pas.
Absolument. Là, ce que je vais évoquer va relever beaucoup de la vision occidentale. Ce qui est clair, c'est que on entend beaucoup, et je dirais que c'est la voix la plus classique, un argumentaire d'abord d'utilité par rapport à nos éléments de bien-être. Et on a vu dans le champ des sciences de la biodiversité apparaître dans les années 2000-2005, de manière un peu large, la notion de service écosystémique, c'est-à-dire tous les services que nous, humains, retirons du bon fonctionnement de la nature au sens large et de la biodiversité de ses éléments en particulier.
Donc ça, quand on dit ça, on met en avant le fait qu'on trouve des médicaments dans certaines plantes ou avec certains animaux.
Par exemple. Déjà, tout ce qu'on consomme, effectivement. Tout ce qui nous sert d'alimentation, de fibres, de bois de charpente, de chauffage, etc. Beaucoup de populations vivent encore de cueillettes, de ramasser un certain nombre de ressources pour leur alimentation. La qualité aussi des sols qui nous permettent les cultures, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, tout ça, c'est médié par des processus écologiques qui incluent le vivant. Le climat lui-même, il y a des rétroactions, la biosphère interagit avec la dimension physique pour aussi avoir un effet sur la régulation du climat. Donc il faut comprendre que le fait que les changements climatiques aient lieu actuellement sont dans certains cas atténués encore par le fait qu'on a de la biodiversité qui fait le travail. Par contre, les choses peuvent aller en s'amplifiant en termes de problèmes climatiques avec l'érosion de la biodiversité. Donc on est là-dedans aussi. Des enjeux même de sécurité pour les sociétés, le fait qu'on soit capable d'avoir des ressources suffisantes qui nous permettent de ne pas rentrer en conflit. On voit des populations humaines qui commencent à rentrer en conflit pour des problèmes d'accès à des ressources qui sont des ressources biologiques vivantes. Donc cette approche qui est globalement, je dirais, ressourciste au sens, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, puisque là-dedans, il y a aussi des dimensions éducatives, ludiques, récréatives, spirituelles, etc. Mais qui relève d'un argumentaire, je dirais, essentiellement anthropocentré. C'est-à-dire, on s'intéresse à la biodiversité parce que d'une manière ou d'une autre, on en dépend, elle nous rend service, ou du moins nous en tirons des services. Cet argumentaire, d'une certaine manière, il n'a rien de nouveau. En tant qu'être vivant issu de l'évolution au sein du buisson du vivant, nous dépendons d'un certain nombre d'autres organismes, pas de tout, mais de beaucoup de choses. Donc cet argument-là, c'est pas une nouveauté quelque part à l'échelle de l'histoire. Par contre, et c'est là peut-être qu'on rentre un peu dans le dur, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si finalement notre capacité à penser le devenir du reste du vivant au-delà de nos intérêts ne serait pas, et donc on est bien dans un champ assez éthique là, pour le coup, ne serait pas peut-être une originalité y compris à l'échelle de l'histoire du vivant. Pourquoi ? Parce que quand on regarde comment cette évolution fonctionne, eh bien, pour l'instant, je n'ai pas connaissance dans la littérature scientifique d'éléments nous montrant que d'autres organismes se posent la question de modifier leurs pratiques, réguler leurs usages, freiner certains modes de leur développement pour laisser vivre d'autres organismes au-delà de ce qu'ils peuvent en tirer pour des formes de mutualisme, de symbiose éventuelle, de coopération. Donc se poser la question de laisser vivre d'autres formes de vie que nous, à côté de nous, avec nous, parfois malgré nous, eh bien c'est une transition que, avec de certains collègues, je qualifie d'une transition évolutive majeure, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui est une nouveauté totale à l'échelle du vivant, et c'est probablement pour ça que c'est à la fois si difficile, si inaudible, c'est-à-dire quand on évoque ce genre de choses, souvent on nous dit « Ah, mais l'argument utilitaire est le seul qui
Oui, parce que si compter. On prend un conflit dont on entend parler régulièrement, par exemple en France, le loup, l'homme.
Voilà, nous atteignons le point Godwin de la biodiversité.
Voilà, exactement. J'aurais pu prendre l'ours, ça doit être
tout
le deuxième.
À fait, c'est le deuxième.
on est vraiment sur ce débat. Il y a l'aspect utilitariste, et puis qu'est-ce que j'ai besoin d'un loup alors que moi j'élève des brebis et c'est elles qui me servent à quelque chose.
Et c'est bien et pour en ça face, que... La question, c'est effectivement, sommes-nous capables, nous, humains, de trouver les compromis pour que certaines de nos activités soient gérées de telle manière que ce type d'organisme-là puisse fonctionner. Alors, je ne suis pas naïf quant à croire, à penser que cette coexistence est facile. Elle est extrêmement difficile et douloureuse et complexe dans certains milieux. Mais c'est bien pour la raison pour laquelle c'est un sujet qui ne peut pas être traité en considérant que, quelle que soit la réponse qu'on veut apporter à cette question, on doit laisser les éleveurs, les bergers, les randonneurs, enfin les usagers de ces milieux, seuls face à ces décisions-là. Ces décisions de coexistence à l'échelle d'un territoire et pas seulement à une échelle locale mais à une échelle globale, parce que si on prend l'exemple du loup, ça ne concerne pas que nos collègues des Alpes, ça ne concerne pas que nos collègues du Massif central ou des plateaux des Grands Causses, que ça ne concerne pas que les milieux de montagne, ça concerne aussi de plus en plus les milieux de plaine, et il faut savoir que cette espèce se répand aussi en plaine et va s'y installer, s'y maintenir. Donc c'est ce genre de débat-là, on doit l'avoir collectivement, mais on doit l'avoir avec une prise de conscience globale de l'enjeu éthique que cela pose et des enjeux pratiques que cela implique, donc une capacité à accompagner politiquement, socialement, économiquement, les transitions nécessaires pour que on puisse trouver ces compromis-là. C'est un choix de civilisation, je ne suis pas le seul à le dire, et c'est quelque chose qu'on doit partager le plus possible et co-construire sans laisser les uns et les autres se débrouiller avec ça seuls face à ce problème.
Vous parliez de question d'échelle et c'est important aussi parce que ça donne aussi l'idée du niveau auquel on doit agir. Est-ce qu'on agit au niveau de l'espèce? Est-ce qu'on agit au niveau de l'écosystème? Est-ce qu'on agit même au-delà? Ce qu'on appelle les biomes, c'est-à-dire un ensemble d'écosystèmes comme, je sais pas, la savane ou voilà.
Absolument. Alors la question des échelles, elle est récurrente. Historiquement, la conservation s'est beaucoup développée à l'échelle des espèces parce qu'on a d'abord diagnostiqué des enjeux sur quelques espèces importantes qu'on voyait décliner, etc.
Si elles déclinent, on les met dans un zoo.
Par exemple.
Si on schématise.
Tout à fait, où on pratique. Des restaurations, des réintroductions, etc. Donc, on a effectivement eu beaucoup d'approches espèces centrées. On constate bien que, vu l'ampleur du problème, on ne peut pas espérer résoudre ces problèmes-là espèce par espèce. Donc, on a déjà commencé depuis longtemps à changer de braquet en envisageant aussi des actions à l'échelle non seulement des espaces, mais aussi avec des visions fonctionnelles, donc des écosystèmes. Ce qui, dans nos milieux français, métropolitains ou outre-mer, assez anthropisés, pose des tas de questions fonctionnelles. De comment est-ce qu'on définit des espaces dans lesquels ces dynamiques de biodiversité retrouvent une certaine liberté? En ce moment, il y a beaucoup de débats autour de ce qu'on appelle l'espace de libre évolution, c'est-à-dire des espaces où on réduit justement les activités humaines ou les impacts humains pour laisser du temps au temps à ces dynamiques. Donc ces changements d'échelle sont importants, aussi à l'échelle de ce qu'on appelle les communautés, les assemblages d'espèces, les réseaux d'interaction, les plantes pollinisateurs, les assemblages de communautés d'oiseaux, d'insectes, etc., dans des milieux agricoles, par exemple. Donc, des visions vraiment systémiques à grande échelle. Mais il ne s'agit pas de quitter complètement ces approches pour basculer dans d'autres, parce que certains sujets ne se traitent efficacement aussi qu'à l'échelle de certaines populations, de certaines espèces. Pour certaines espèces, on sait comment restaurer des populations. On l'a fait. Je travaille sur des réintroductions de populations de vautours dans le sud de la France avec beaucoup de collègues associatifs, la LPO et un certain nombre d'espaces protégés, de parcs nationaux, parcs régionaux et d'autres associations. Et les efforts de restauration de ces populations de vautours, vautours fauves, vautours moines, gypaètes barbus, portent leurs fruits. On a des populations qui sont beaucoup plus florissantes aujourd'hui qu'à une période encore pas si lointaine où elles étaient éteintes à l'échelle locale ou nationale.
Mais alors du coup, ça m'amène une autre question. Je lisais l'un de vos confrères au moment de la remise du rapport sur la biodiversité, qui est enseignant aux États-Unis et qui dit « Si on évoque l'importance cruciale des micro-organismes pour la vie sur Terre, y compris humaine, les gens perdent tout intérêt. » Et c'est un peu, d'une manière, ce que vous venez de dire, on va sauver un vautour, on va sauver une espèce de vautour, on va sauver l'ours blanc, etc. On a un rapport un peu émotionnel avec l'espèce.
Tout à fait.
Un micro-organisme, j'ai jamais vu grand monde s'extasier devant un micro-plancton.
En fait, ça pose énormément de questions qui sont aussi en ce moment des questions de recherche dans des dimensions qui vont jusqu'à des dimensions psychologiques. Là, on a un gros enjeu autour de ce qu'on appelle la perte de connexion à la nature, c'est-à-dire qu'on est sur des populations humaines qui sont de plus en plus à l'échelle mondiale, de plus en plus urbaines. Souvent avec une expérience de contact à la nature qui est beaucoup plus partielle ou biaisée, etc. Moi, à titre personnel, j'aurais tendance parfois à me demander si finalement c'est pas une opportunité pour rebattre les cartes de nos relations à la nature. Je parlais de cette transition majeure, c'est-à-dire de se mettre à percevoir que ces choses-là ne sont pas que des choses, ne sont pas que des objets. Ce sont des êtres vivants qui méritent une forme de respect, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire passer un moment un humain avant eux en cas de priorité, bien sûr. C'est tout l'enjeu. Et c'est cet enjeu de la reconstruction d'une relation et d'une cohabitation avec des formes de vie qui nous entourent. Ce qui est fascinant, c'est que ces mêmes populations très urbaines dont je fais partie, nous amusons beaucoup à aller voir des blockbusters dans lesquels il y a des formes de vie très différentes qui discutent, etc. Tout le monde connaît Star Wars et Mos Eisley et trouve ça génial. Et on n'est pas capable de reconnaître que nous sommes dans un Mos Eisley de biodiversité autour de nous, simplement parce que pour l'instant, on n'a pas encore la facilité à discuter avec la mésange, le maire, pétrole ou le pissenlit qui pousse au bord de notre place de parking, mais si on le voyait sous cet angle-là, peut-être qu'on commencerait à le respecter un peu différemment.
Eh ben dites-moi, Star Wars au secours de la biodiversité, je ne pensais pas qu'on en arriverait là. François Sarrazin, professeur d'écologie à Sorbonne Université et président du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Merci d'avoir été avec nous. Autre décrocheur de lune, Hugues de Thé, avec ce spécialiste de la lutte contre le cancer. On va faire le point sur ces maladies.